Bonsoir. Les journalistes relaxés, Denis Baupin condamné pour procédure abusive. Il avait porté plainte après les témoignages de plusieurs femmes l'accusant d'agression sexuelle et de harcèlement. Dans ce journal, une nouvelle révélation de la cellule investigation qui concerne Alexandre Benalla. Benoît Hamon lui a accordé dans le passé un laissez-passer de complaisance à l'Assemblée nationale. Nous irons en Ukraine où doit débuter d'un instant à l'autre un débat grand spectacle dans le plus grand stade du pays. Il oppose les deux finalistes à la présidentielle. Et puis nous nous intéresserons à cette nouvelle manifestation à Alger contre le pouvoir en place, une manifestation où la cause berbère est très présente. Il avait dit vouloir laver son honneur, mais il n'était jamais venu pendant l'audience. La justice a finalement relaxé les journalistes de Mediapart et de France Inter qui avaient donné la parole à des femmes accusant Denis Baupin d'agression sexuelle et de harcèlement. L'ancien vice-président de l'Assemblée nationale a même été condamné pour procédure abusive, Jean-Philippe Deniaud.
Le tribunal relève que certes l'enquête comporte des propos diffamatoires et que les conditions de vérité parfaite et complète ne sont pas réunies, mais la bonne foi des journalistes et le sérieux de leur travail doit largement l'emporter. Les magistrats retiennent notamment que le sujet traité était d'intérêt général et sociétal, qu'il n'était pas destiné à nuire personnellement à Denis Baupin, que le ton employé était suffisamment prudent. Le tribunal ajoute que les témoignages des victimes lors de l'audience ont tous confirmé le contenu des reportages poursuivis. La diffamation n'est donc pas retenue. Et le tribunal conclut que Denis Baupin, en refusant de répondre à l'enquête des journalistes, aurait dû, en quelque sorte, s'abstenir de poursuivre France Inter et Mediapart. Il est donc aujourd'hui condamné à verser un total de 7 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les policiers ont débrayé une demi-heure ce matin devant leur commissariat à partir de 11h30. Un geste symbolique pour dénoncer la vague de suicides qui touche leur profession. Depuis le début de l'année, ce sont 28 policiers qui se sont donné la mort, dont deux hier. Un véritable fléau, Maud Calvez, qui s'explique en partie par un rythme de travail effréné.
Et oui, difficile d'avoir des amis hors collègues quand on n'est disponible qu'un week-end sur 6. Idem pour faire du sport. Avec 24 millions d'euros d'heures supplémentaires non payées, les forces de l'ordre sont exténuées. Thomas Toussaint est délégué général du syndicat UNSA Police. Il trouve les fonctionnaires très occupés, mais finalement bien seuls.
Comparer ça à une secte, mais la police, c'est un peu ça, quoi. On se marginalise de par ce service, en fait, H24. L'éducation, c'est compliqué. Vous faites ça par téléphone. Il y a tout un tas de choses comme ça qui font que peut-être qu'il y a des suicides qui ont été d'ordre sentimental sans pour autant avoir des problèmes au niveau du service. Mais la plupart du temps, c'est ça. C'est plusieurs facteurs. Et le travail joue toujours un rôle.
En réponse, Christophe Castaner met en place à la fin du mois une cellule alerte prévention suicide, sorte de numéro d'urgence pour prévenir les passages à l'acte.
S'il y a la passion de l'uniforme, il y a aussi la pression de l'uniforme. Et le suicide n'est hélas pas un problème que nous allons gérer du jour au lendemain à coup de grandes déclarations. Mais je comprends parfaitement l'initiative prise par les organisations syndicales de ce moment de recueillement, de rassemblement. Mais vous savez, c'est un phénomène complexe qui a souvent un ensemble de causes. Mais trop souvent, quand on m'a informé d'un suicide dans la police ou dans la gendarmerie, on m'a toujours expliqué que c'était lié à des raisons personnelles. Ça n'est pas le cas. Il y a toujours une dimension multifactorielle qui amène au suicide. Et donc nous devons effectivement sur ce sujet tout faire.
Tout faire, dont accélérer le plan anti-suicide lancé l'année dernière. C'est le travail des associations, répond la CGT. Les organisations syndicales demandent à l'unisson bien plus de moyens.
Et l'année dernière, en 2018, ce sont 35 policiers et 33 gendarmes qui se sont suicidés. Mécontentement également à la PHP avec la grève dans l'ensemble des urgences. Les 4 premiers hôpitaux ont été rejoints depuis dimanche. Quelques centaines de blouses blanches manifestaient ce matin devant le siège de la PHP. Les syndicats réclament 700 postes plus et une prime de 300 € pour les services d'urgence. De son côté, la direction propose pour l'instant 61 postes et une prime de 65 € par mois. Pour l'instant, donc, la situation ne progresse pas. Tara Schlegel a rencontré rue Victoria, à deux pas de l'hôtel de ville, Camille et Clément, deux infirmiers aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine et de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui reviennent sur les violences quotidiennes et le manque d'effectifs chroniques.
Il faut savoir que depuis début 2019, on a eu 5 collègues qui se sont fait agresser pour Saint-Antoine.
Le mercredi dernier, on a eu 5 collègues de nuit qui se sont fait agresser par de différents patients qui étaient violents en une nuit. Il y a eu une collègue qui a eu 5 jours d'ITT parce qu'elle a été mordue à l'ongle et que l'ongle s'est pété en deux et qu'elle a eu des saignements. Ça faisait hyper mal. Elle était en choqués aussi. Et lorsqu'on doit gérer un afflux de patients qui augmente de jour en jour depuis des années, et qu'on est à moins 3, moins 5 effectifs, et qu'on se rend compte qu'on va devoir gérer ça, et qu'on n'a pas, malheureusement, qu'on n'a pas de réponse, et ben on subit en permanence, et à la fin, ça devient épuisant.
On manque de temps, surtout. On manque beaucoup de temps. On est tiraillé parfois. Je viens pour faire une prise de sang. Après, il y a 4 autres bilans qui arrivent. Je dois me dépêcher parce qu'on n'est pas beaucoup. Et j'ai ma patiente qui est devant moi, qui fond en larmes parce qu'elle a peur. Parce que c'est une dame qui a par exemple des troubles cognitifs et qui ne sait pas où elle va aller, qui ne sait pas où elle est, qui a besoin d'être rassurée. Et je me dis, j'ai 5 minutes pour essayer de l'apaiser. On essaye de prendre le temps pour ces gens-là, mais c'est du temps qu'on vole aux autres patients, en quelque sorte.
Lorsque vous dites à une personne âgée, nous on manque de matériel, comme partout, on va dire. Ça m'est arrivé une fois de dire à une personne âgée de 65 ans, madame, excusez-nous, mais il faut absolument un brancard parce qu'il y a une personne qui vient de faire une crise, il faut un brancard. Donc là, cette personne-là qui a fatigué, qui a mal au dos, qui est épuisée, qui est là depuis 10 heures, on la met sur une chaise. Il faut vous rendre compte qu'on a tellement honte de faire ça, malheureusement, on n'a pas le choix. On travaille dans des conditions qui sont inacceptables et on est en première ligne.
Des centaines de personnes à la Défense, aujourd'hui, elles ont investi des lieux symboliques au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. 2 sièges d'entreprise, Total et EDF, celui d'une banque, la Société Générale, et une annexe du ministère de l'Écologie. Bonsoir Véronique Rebérot.
Bonsoir.
Vous étiez tout à l'heure sur place pour cette première action d'ampleur de désobéissance civile en France.
Voilà, nous voilà devant donc le siège Total. À Sailly de bon matin, les salariés sont empêchés d'y entrer. Des tracts dénoncent l'inaction climatique d'Emmanuel Macron qui défend, lit-on sur ces tracts, les intérêts des multinationales pollueuses comme Total. Une alliance toxique. Thomas est un de ces désobéissants assis devant la tour Total. Derrière lui, un ruban de signalisation plastique où est inscrit « scène de crime climatique ». C'est la première fois que Thomas participe à ce genre d'action.
Bah, c'est un moyen d'agir, de m'engager au maximum dans mes convictions.
Vous faisiez quoi jusque-là ?
Des manifestations, des tractages, de l'engagement associatif surtout.
Et maintenant, vous bloquez le siège de Total.
Voilà.
Scène de crime climatique, c'est comme ça que vous voyez les choses ?
Ouais, complètement. Parce qu'il y a déjà des gens qui meurent dans certains pays à cause du dérèglement climatique et on se comporte comme si on n'avait rien fait, comme si tout allait encore bien.
Catherine est une autre désobéissante. Elle est allongée sur le sol comme pour symboliser une scène de crime inédite pour elle aussi.
C'est une étape supérieure parce qu'on a l'impression que les marches ne servent à rien, que ça ne donne rien, que le gouvernement ne nous entend pas.
Donc il faut bloquer, il faut montrer que quoi ?
Oui, il faut bloquer des bâtiments emblématiques comme Total ou d'autres. Ben, il faut savoir ce qu'on veut. Résistance,
désobéissance, le climat. 2000 citoyens et militants ont répondu donc à l'appel des ONG, ce qui ne surprend pas Jean-François Julliard, c'est le directeur de Greenpeace France.
Ça ne nous surprend pas parce que c'est les souhaits qu'on entend dans les marches pour le climat depuis plusieurs mois maintenant. On a envie de s'engager de manière plus radicale, de manière plus forte. On a envie de désobéir. On est extrêmement enthousiaste à l'idée qu'aujourd'hui, c'est une première. On n'a jamais vu ça, une action de désobéissance civile avec plus de 2000 personnes. C'est du jamais vu à ma connaissance en France. Donc voilà, ce sont les messages qu'on entend. Donc on n'est pas surpris de cette envie d'aller encore plus loin.
Nous agissons, réaction du ministre de l'écologie François de Rugy, dont le ministère a lui aussi été visé, aux quelques militants radicaux qui ciblent le gouvernement et le président. Vous vous trompez d'ennemi, a réagi le ministre.
Merci à vous Véronique Rebérot. Comme chaque vendredi, c'est le moment de retrouver l'enquête de la cellule Investigation de Radio France. Cette semaine, une nouvelle révélation dans le sillage de l'affaire Benalla. Benoît Hamon a accordé à Alexandre Benalla un laissez-passer de complaisance à l'Assemblée nationale. Bonsoir Élodie Guéguin.
Bonsoir Antoine.
L'ancien garde du corps du chef de l'État est devenu un caillou dans la chaussure de la Macronie. Il y a l'affaire de la contre-escarpe, celle des contrats russes. Mais ce que vous avez découvert, Élodie, en enquêtant pour la cellule Investigation de Radio France, c'est que bien avant l'Élysée, Alexandre Benalla a souvent joué avec le feu et avec les règles.
Oui, il faut se souvenir qu'Alexandre Benalla a d'abord fait ses armes comme garde du corps au Parti Socialiste auprès de Martine Aubry, puis de François Hollande. Après la présidentielle de 2012, il est embauché comme chauffeur par le ministre Montebourg. Mais le jeune homme est licencié au bout de 4 mois. Il est déjà jugé trop impulsif. Il opère alors un virage dans le privé. La page Solferino semble tourner. En octobre 2014, il signe un contrat avec la société de sécurité Velours. Et c'est à ce moment-là qu'il démarche le député des Yvelines, Benoît Hamon. Il lui demande un badge d'invité, officiellement pour pouvoir fréquenter la salle de sport de l'Assemblée.
Là, à l'époque, en 2014, à la sortie du gouvernement, pour ce qui me concerne, c'est un jeune homme qui me demande un pass pour aller faire du sport. Je le connais parce qu'il est au service d'ordre du PS et je le lui donne.
Alors, il lui donne un badge de complaisance, mais ce n'est pas ce qui pose le plus problème, Élodie.
Non, le problème, c'est que pour obtenir ce badge, Alexandre Benalla est présenté comme chauffeur du Parti Socialiste, membre du service d'ordre. Or, c'est faux, ça fait bien longtemps qu'il ne fait plus partie des collaborateurs du PS, d'où l'embarras aujourd'hui de Benoît Hamon.
Moi, la vérité, c'est que il se présente comme assistant chauffeur. C'est vous d'ailleurs qui m'avez donné l'information et qu'il a probablement menti sur ce point, comme il a menti à beaucoup de monde après. Mais moi, je fais un badge à un membre du service d'ordre du PS dans ma tête. Point barre. Il n'y a pas de vérification.
Enfin, vous n'avez pas vérifié.
Ah, mais absolument pas. Et dans les faits, il m'a menti.
Vous vous retrouvez malgré vous à faire un faux quelque part, parce que c'est un faux.
Oui, mais c'est pas moi qui le fais. C'est lui qui déclare. C'est une fausse déclaration de sa part. Moi, je ne fais aucun faux. Bon, je pense que comme tout le monde, j'ai été enfumé.
Alors, j'ai été enfumé, ce sont les mots de Benoît Hamon. Élodie, vous avez aussi découvert que dès 2012, lorsqu'il travaillait pour le PS, Alexandre Benalla était déjà fasciné par les armes.
Oui, et celui qui nous le raconte, c'est son mentor, son formateur, Éric Plumer. C'était le monsieur sécurité du PS. Il se souvient qu'Alexandre Benalla voulait absolument une arme pour protéger François Hollande.
Il aurait bien aimé qu'on demande un port d'armes pour la présidentielle. Il est dans ses délires de jeunes. Mais moi, je lui explique, c'est du grand n'importe quoi. Nous, notre rôle, c'était beaucoup les meetings. Par exemple, les meetings du Bourget, c'est du 40 000 personnes. Il faut vraiment être balèze, où on voit ça dans les films de cow-boys, tirer une balle entre les deux yeux d'un terroriste au milieu de 40 000 personnes. C'est du n'importe quoi, ça n'existe pas. Pour moi, c'est un délire.
Des armes, des passeports diplomatiques, des badges bleu-blanc-rouge. Très tôt, Alexandre Benalla est attiré par les attributs du pouvoir. Et ça explique la suite, selon l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, Max Dubois.
Franchement, ça fait rêver tout le monde. Quand vous êtes dans une bagnole qui passe devant toutes les autres, vous avez un sentiment de puissance, vous avez le gyrophare au-dessus de la tête. On est en face d'un jeune homme qui a 27 ans, à qui on a donné des passeports diplomatiques, une arme. Il n'a pas su gérer tout ce qu'on lui a donné. C'est un pur sang sans bride et qui est parti en live.
Alors je précise que j'ai sollicité Alexandre Benalla sur tous ces points, mais il n'a pas souhaité faire de commentaires.
Merci Élodie Guéguin, votre enquête est à retrouver sur franceculture.fr. Une enquête pour escroquerie en bande organisée vient d'être ouverte. Elle vise des personnes qui ont lancé frauduleusement des appels aux dons pour financer la reconstruction de Notre-Dame. Cette enquête a été ouverte à la suite d'une plainte de la Fondation du patrimoine visant des personnes profitant du contexte pour tenter de solliciter donc frauduleusement des dons en son nom. Emmanuel Macron va s'exprimer jeudi prochain lors d'une conférence de presse au sujet du grand débat. C'est l'Élysée qui vient de le préciser. La date avait dû être repoussée en raison de l'incendie à la cathédrale de Notre-Dame. Emmanuel Macron qui a reçu aujourd'hui une délégation des forces arabo-kurdes engagées en Syrie contre le groupe État islamique. Le chef de l'État l'a assuré du soutien de la France au moment où ces forces s'inquiètent d'une moindre mobilisation internationale à leur côté. Il a ajouté qu'un soutien financier serait alloué pour répondre aux besoins humanitaires et de stabilisation socio-économique des populations civiles en Syrie. Christian Chéneau.
Les Kurdes syriens comptent leurs amis, car l'équation sur le terrain est en train de changer. Daesh a été défait dans son dernier bastion de Baghouz et un retrait militaire américain se profile à l'horizon. Les Kurdes redoutent d'être abandonnés à leur sort. La France est donc pour eux un allié précieux. Emmanuel Macron a promis qu'un soutien financier serait alloué pour répondre aux besoins humanitaires des populations civiles. Mais Abed Marbash, coprésident de la région du nord-est syrien, veut aussi un coup de pouce politique.
Nous avons demandé au gouvernement français le soutien de l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie d'un point de vue politique. Et puis nous avons expliqué aux autorités françaises la nécessité d'aider à la mise sur pied d'un tribunal international pour juger les terroristes de Daesh. C'est un sujet à l'étude et en discussion. Le nombre de détenus dans nos prisons, ceux qui sont des combattants, est d'environ 6000 personnes.
Ces prisonniers de Daesh sont une carte maîtresse dans le jeu des Kurdes syriens, car les pays dont sont originaires ces djihadistes, à commencer par la France, ne sont pas pressés de les récupérer. Les juger sur place donnerait à l'administration autonome du nord-est de la Syrie une forme de reconnaissance politique.
C'est une foule immense qui remplit à nouveau les rues du centre d'Alger pour l'acte 9 de la protestation populaire. Après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, les manifestants réclament désormais le départ du pouvoir de l'ensemble de l'appareil lié à l'ancien président. Bonsoir Thibaut Cavaillès.
Bonsoir Antoine.
Particularité aujourd'hui pour cette 9e manifestation, Thibaut, les Berbères étaient très visibles à la veille d'une commémoration importante.
Demain 20 avril, date commémorative du printemps berbère. Cette période en 1980 où les Algériens s'affirmant amazigh, berbères donc, ont réclamé la reconnaissance de leur identité, de leur langue. C'était la première fois que des soulèvements avaient lieu dans le pays depuis l'indépendance. En Kabylie, région au nord-est du pays où les berbères sont particulièrement présents, ils ont été réprimés, des centaines d'arrestations et plusieurs dizaines de morts. Demain donc 20 avril, date importante. Et hier aussi, 18 avril, là c'est l'année 2001, à deux jours de la commémoration du printemps berbère, un jeune homme à l'époque est tué d'une balle, c'était en Kabylie. Manifestations pendant plusieurs semaines, répression et là près de 130 morts. Ainsi aujourd'hui dans les villes de la région, lors des manifestations contre le pouvoir, le drapeau amazigh était très présent et les slogans aussi. Imaziren, Anarez, voilà Neknou, nous sommes des hommes libres, plutôt tombés que de rester à genoux. Pour Yanis Chérou, 23 ans, étudiant à Tizi Ouzou, très actif dans la défense de sa culture, amazigh, cette période du mois d'avril est symboliquement très forte.
Je rappelle que durant cette période-là, en 2001, 128 de nos frères ont été assassinés par le pouvoir algérien. Marcher en cette période, ça fait quand même un petit pincement au cœur quand on se rappelle qu'ils avaient quand même, ils ont commencé le combat qu'on est en train de mener actuellement.
Alors depuis le 22 février que les Algériens manifestent, c'est l'unité qui prime. Et forcément, les revendications berbères font craindre un risque de division. Yanis Chérou.
Le risque de division a toujours existé en fait chez nous, parce qu'il faut savoir que le problème qu'on a avec notre amazighité, notre identité, on l'a par rapport surtout à l'État algérien en pouvoir. C'est le pouvoir qui a fait l'endoctrinement de la société algérienne et qui a fait une sorte de haine envers les berbères. Quand on voit des personnalités qui traitent les berbères de zouaves et qui traitent les berbères de juifs et de non-algériens carrément et de séparatistes juste parce qu'ils revendiquent leur identité. Donc oui, je pense que même demain, on va en profiter pour clamer haut et fort notre ras-le-bol du pouvoir et tout en mettant en avant notre identité et le symbole de cette date.
Demain, en effet, Antoine, grande marche dans les villes de Kabylie pour commémorer ce printemps berbère et continuer à dire au système de s'en aller.
Merci à vous, Thibaut Cavaillès. C'est un débat grand spectacle qui commence en ce moment même dans le plus grand stade d'Ukraine. Deux finalistes à la présidentielle, le président sortant Petro Porochenko et un novice en politique, le comédien Volodymyr Zelensky. Bonsoir Claude Bruyot.
Bonsoir.
Vous êtes notre envoyé spécial à Kiev. Volodymyr Zelensky est le grand favori du scrutin qui va avoir lieu dimanche. Il est crédité de plus de 70% des voix. C'est donc un peu le débat de la dernière chance pour son concurrent.
Oui, Petro Poroshenko qui joue, vous l'avez dit, effectivement, sa dernière carte et qui, pour l'instant, est en train de prendre très nettement le dessus sur Volodymyr Zelensky. Vous savez, il y a eu un premier coup de théâtre puisqu'il y avait deux scènes, en fait, de disposer de façon très surréaliste, d'ailleurs, dans ce stade. Une derrière chaque but, si vous visualisez. Et Petro Poroshenko a quitté sa scène, a fait plus de 50 mètres à pied et est monté sur la scène de Volodymyr Zelensky, l'a salué et s'est installé à ses côtés. Et depuis, Petro Poroshenko prend la parole et est en train, en quelque sorte, d'enfoncer Volodymyr Zelensky sur un argumentaire, évidemment, qui fait référence à son expérience politique. Volodymyr Zelensky n'a pas ses supporters qui sont restés, pour une grande part, bloqués à l'extérieur du stade, alors que ceux de Petro Poroshenko, comme par hasard, eux, sont rentrés et soutiennent évidemment leur champion et sifflent Volodymyr Zelensky. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le président sortant, Petro Poroshenko, donc qui joue sa dernière carte ce soir pour tenter d'inverser ce rapport de force favorable de plus de 20 points, quand même, on le rappelle, à Volodymyr Zelensky, à peine ce face-à-face terminé dans le stade, doit rejoindre les studios de la télévision nationale pour participer à ce qui devrait être le débat officiel. Mais Petro Poroshenko sera seul sur le plateau télévisé. Zelensky a prévenu qu'il ne viendrait pas au motif que cette façon de communiquer ne correspondait pas à l'idée qu'il se fait de sa relation avec les Ukrainiens.
Merci à vous Claude Bruyot en direct de Kiev. Demain, du beau temps presque partout en France, à peine troublé par quelques averses sur le centre et la façade atlantique ailleurs, du soleil, rien que du soleil. Température printanière, 15 degrés à Cherbourg, 20 à Nice et la maximale sera pour une fois à Paris avec 25 degrés. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain journal à 22h, il vous sera présenté par Mathieu Laurent.